Terroir de terre. Bonjour et bienvenue pour la 20e Histoire de terre. Ce mois-ci, nous sommes à nouveau dans les locaux de Radio Vassivière en direct. Et nous allons vous faire entendre un reportage que nous avons enregistré la semaine dernière sur la commune de Lanouaille, chez Jean-Marie Connet. Jean-Marie Connet qui fait du maraîchage, il est installé dans le bourg de Lanouaille. Et pendant l'émission, vous entendrez donc des extraits de notre reportage in situ et probablement les commentaires de Jean-Marie Connet en direct qui va arriver bientôt pour pouvoir commenter et parler de son activité avec nous.
C'est parti avec la visite des serres de Jean-Marie et d'une des deux parcelles sur lesquelles il produit des légumes, donc à Lanouaille.
Un plan où je fais tous mes plants parce que je fais un peu de plants pour moi et puis j'en vends un petit peu. Voilà, il y a des tomates, des courgettes, des concombres, des poireaux, des choux, des aubergines, de la salade, de la misère, de l'herbe, de la chalope ariane et tout. Voilà, il y a un peu de tout.
Piment, poivron.
Poivron. Le piment. Piment, aubergine, les poireaux plus clairs, c'est les poireaux d'été. Bientôt, j'ai commencé à en repiquer. Tomates, mais là, elles commencent un peu à jaunir puisqu'il faudrait les avoir mis en place et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, j'en donne un peu à manger. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc, il y a 70 mètres carrés de plants.
Vous avez une grosse surface pour cultiver en plein champ aussi?
Oh là là, quand je suis en bas, je vois pas le bout d'arrêt tellement c'est long. Non, j'ai à peu près, sur plusieurs parcelles, j'ai à peu près 1 hectare. Ce qui est bien suffisant pour quelqu'un qui travaille pas que sur cette petite exploitation, mais qui a un autre métier pour survivre.
Ah, voilà. Vous avez une double activité.
Ouais.
Vous travaillez à l'Institut d'études occitanes, c'est ça?
C'est ça, donc j'ai voulu faire un choix de pouvoir revenir un peu ici pour être plus présent sur le bourg, sur la Noaille, la commune. Mais voilà, ça me prend un peu de temps.
Revenir, parce que vous étiez ici, vous êtes
parti. Non, mais quand je suis à l'Institut d'études occitanes, c'est tous les jours, et comme le siège était un peu loin de la Noaille, je ne rentrais pas tous les jours. Ayant eu marre de dormir pendant presque 15 ans dans un bureau, une partie de la semaine, j'ai dit non, j'arrête. Voilà, à mi-temps, et ça me va très bien, même si c'est très compliqué à gérer. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est comme quoi? On va continuer?
On continue.
Alors, ça, c'est un champ que je fais pour la première année. Ça n'avait pas été cultivé, ça n'avait pas été labouré depuis la guerre de 14. Ça, c'était une partie qui était labourée. C'était une chènevière. Une chènevière, c'est là où on cultive le chanvre. Le chanvre textile, j'entends. Hein. Alors, le bruit, c'est la bâche en plastique. Et je mets des petits tunnels plastiques, ce qu'on appelle des chenilles nantaises.
Chenilles nantaises?
Ouais, parce que j'ai toujours peur encore des coups de froid. Et on est dans un fond. Et là, c'est des courgettes, elles sont en fleurs. Les premières vont bientôt arriver. Trop cool.
C'est beau hein, quand même. Dans la région, moi j'ai pas vu souvent de grands terrains de légumes.
On n'est pas très nombreux, il y a plein de gens qui veulent faire du maraîchage. Et puis le maraîchage, nous voilà, il faut se lever le matin. Et puis surtout, il faut essayer d'en vivre. C'est quand même pas facile.
Parce qu'on dit quand même que le climat du château de là, c'est pas vraiment très propice au climat.
Ah non, la montagne est légumes pour les légumes, c'est. Ça me paraît risqué, mais bon, ça vaut le coup de le tenter.
C'est quoi, des gels,
du froid? Du gel, du froid, et le début de saison cette année, là, vraiment, ça commence que, hein, ça fait, on va dire, 3 jours qu'il fait beau. Et je dois avouer que j'en ai bavé.
Il y a eu des pertes, il y a eu des choses congelées.
Des choses qui n'ont pas poussé, enfin qui poussent que maintenant, qui devraient démarrer. Et là, moi, je travaille là sur un des friches, donc c'est une prairie juste retournée. Donc il y a pas mal de... Il y a encore des mottes, il y a du taupin. Le taupin, c'est une larve de coléoptère, c'est ces vers jaunes, là, qui est jaune ivoire. Et ça me fait un peu de dégâts sur les salades, surtout. Donc là, j'ai de la courgette, à côté, j'ai des tomates, qui sont aussi un petit tunnel. C'est une tomate précoce. C'est une tomate qui s'appelle la précoce glacier, comme son nom l'indique.
Adapté. Bon.
Je crois que si je ne me trompe pas, c'est une tomate suédoise. Donc voilà. Elle est en fleur, hein. Elle est en fleur. Ça, celle-là seront mières, ça c'est une autre variété. Je vais en faire un peu dehors cette année. Donc on va les ouvrir un petit peu. Qu'elles voient le soleil et surtout que je voudrais que les insectes rentrent pour polliniser un peu. Il y a plein de fleurs. Hein. Mais elles sont un peu pâles parce qu'elles ont. Elles ont eu froid. Ici, il a gelé. Même. Je me demande s'il n'y aurait pas. S'il n'y a pas un peu de misère déjà, voyez.
La misère, c'est quoi, le mildiou ?
Oui. Et bien on va faire de la bouillie bordelaise. J'ai que ça à faire. Voilà. C'est pour ça que j'en vais ouvrir pour que ça s'aère, ça sèche un peu. Et puis. Elles sont bien belles quand même les fleurs. Voilà.
Et au niveau du sol, la noix, c'est comme toutes les terres de la montagne Limousine, c'est acide ou...
Ouais, c'est acide, c'est même assez acide comme ailleurs. Les terrains assez légers, donc l'été, l'été ça sèche. Ça sèche, et ben voilà la petite tomate, trop cool. Mais celle-là, elle va rien faire. Elle est abîmée, ça va sécher ça. Voilà, donc je vais leur faire un petit coup de bouillie bordelaise ce soir. Je vais laisser s'aérer aujourd'hui, et puis on va essayer de les sauver, mais bon, il y aura. Ça, c'est le froid ça. La semaine dernière, ça, il a gelé blanc, et j'étais dessous, j'ai pas mis de voile, parce que j'ai pas eu le temps, et voilà. C'est toujours le risque dans ce pays.
Donc un début de saison toujours difficile.
Toujours difficile.
Une fin de saison qui arrive tôt.
Une fin de saison qui arrive tôt. Enfin, l'an dernier, c'était un peu plus tard, mais il y a eu 3 mois sans eau. Moi, j'ai eu 90 jours sans flotte. Donc c'était du purin d'ortie, c'est cette odeur un peu particulière. 90 jours sans flotte, et bien j'ai perdu 10 kilos. C'était comme... Alors voilà, une autre misère. Comme je vous le disais, prairie retournée. Et là-dedans, je suis à peu près sûr qu'il y ait la larve de taupin. En plus, il y en a deux.
Donc alors, on décrit,
c'est une petite salade en train de se flétrir.
Elle se flétrit et
dans la racine,
vous avez vu que ça doit être le taupin.
Ouais, c'est le taupin.
Effectivement, il était en train de la manger.
C'est un petit ver jaune.
Qui mange la racine plutôt ?
Qui mange dans la racine, ouais. Il mange à l'intérieur de la racine.
Ouais, et on peut pas faire grand chose contre ça. Hein.
Non, les tuer, voilà encore.
Un par un, faut essayer.
Non, ici, je ferai plus de... Ici, c'est un endroit où je ne vais plus... remettre de salade cette année. Et voilà, je peux plus les garder parce que tout est consommé, voilà. Mais j'ai une autre parcelle où qui est un terrain cultivé depuis plus anciennement. Donc là j'ai plus trop de soucis de taupin.
Il y a pas moyen.
Ils sont là sur les terres qui sont.
C'est une prairie retournée sur les terrains neufs, souvent il y en a. Ouais. Et souvent je mets un répulsif qui s'appelle le tourteau-drissin, qui est autorisé en agriculture biologique, puisque je suis certifié en agriculture biologique. Et j'en mets un petit peu à chaque pied, et c'est un petit répulsif, et visiblement ça a l'air de marcher. Et ça se présente sous forme de granulés. J'en mets un ou deux granulés dans la terre, au pied, et ça, c'est paraît-il répulsif, et visiblement ça a l'air d'être répulsif pour le taupin. Et en plus c'est de l'engrais qui est autorisé en agriculture biologique. Donc là, j'en avais pas mis, j'en mets sur les pieds des choux, j'en mets ailleurs. C'est une diffusion lente. Et voilà. Et alors là, il y a une autre bestiole aussi qui me fait de la misère.
L'altise.
Voilà, un autre petit coléoptère.
C'est un insecte qu'on appelle
ici d'opiojou. D'opiojou. C'est un petit coléoptère qui saute. Et ça fait de la belle dentelle sur des feuilles. C'est joli, ça arrive à faire crever certaines plantes, particulièrement les crucifères, donc la famille des choux, radis, et ainsi de suite. Ça, c'est des choux chinois. Si je les avais fait un mois plus tôt, ils se seraient développés, il n'y aurait pas trop de problèmes. Mais là, ils ont été faits il n'y a pas longtemps, donc ils souffrent. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal aussi de coccinelles cette année. pas ici, dans un autre champ. Là, c'est des blettes, de la carde à couper.
Les coccinelles, quel est le rapport avec les coccinelles?
Elles mangent pas mal de bestioles qui traînent dans les... Alors, je sais pas si elles mangent d'altise, mais enfin, elles font du ménage dans certains parasites.
Mais c'est plutôt quelqu'un qui va nous aider, la coccinelle.
C'est une copine, oui. La bête à bon Dieu, comme on dit.
Donc, on continue entre les choux et les choux. Entre
les
choux et les choux.
Petits choux qui ont été articulés.
On est dans des raies, comme vous disiez, qui ont été faites au tracteur, j'imagine.
Ça s'appelle des, en français un billon.
Des buttes, on dit des fois, non?
Des buttes, des petites buttes, mais moi j'appelle ça des tarceaux. Ceux qui connaissent un peu la langue du pays, ils sauront ce que c'est qu'un tarceau. Un tarceau en français, c'est un billon. Ou alors, dans certains coins, ils appellent ça une planche. Mais moi, c'est un tarceau. Et là, vous voyez, c'est un terrain neuf, donc il y a encore des racines. Mais c'est en train de pousser. Alors, on va se déplacer, on va changer de tarceau. Alors là, pareil, j'ai fait des oignons qui démarrent juste maintenant. Et là, c'est des carottes qui sortent. On les voit, elles marquent le rang.
Il va falloir les éclaircir une par une, non?
Pas encore, je vais laisser pousser un peu, qu'on voit les feuilles, les vraies feuilles. Là, c'est encore les cotylédons. Donc les deux cotylédons, ceux qui ont fait un peu des sciences naturelles, normalement, à l'école, s'en rappellent. Là, c'est des petits oignons blancs. Ils ont mis le temps, ils démarrent. Ça y est, c'est parti.
Que vous avez semé...
C'est mes graines, c'est mes semis. Voilà, et je vais maintenant les biner. Leur mettre un petit peu de purin d'ortie, je pense. Et pour les booster un peu, pour que ça aille, ça pousse. Et là, ma raie, à un moment, je devais être... Elle n'est pas très droite à un endroit, je ne sais pas. J'avais dû boire un petit coup. Et là, encore...
Ça s'est fait au tracteur?
Ouais, c'est fait au tracteur, mais comme on est sur de la pente, le tracteur a tendance des fois à se déporter, à glisser. Voilà, j'ai un peu de pente. Là, l'arrêt fait 80 mètres de long à cet endroit.
Donc vous travaillez au tracteur pour la préparation des terrains.
Ouais.
Mais après, c'est tout à la main?
Tout à la main. Donc c'est-à-dire que chaque fois, j'ai un billonneur, un vieil engin bricolé sur lequel j'ai mis des socles buteurs pour faire des billons, pour faire mes tarceaux. Et après, je repasse avec un de mes outils, on va aller les voir. J'ai trois outils qui me sont utiles à peu près pour tous mes travaux. C'est le bigot, la tranche et un râteau. Alors le bigot, c'est un crochet à fumier, à dents longues, ça me permet de casser les mottes, comme on dit, écassouner, casser les cassous. Alors les cassous, c'est les mottes de terre compactées ou les mottes, les enlever. Après la tranche, c'est la houe en français. Et puis le dernier, c'est un râteau parce que j'égalise toujours avant de semer, puisque je fais ça avec un petit semoir. Quand je sème, j'ai un petit semoir manuel.
Avec un petit trou.
Des petits trous, là, une petite trottinette, là, ça plaît beaucoup aux enfants cet engin. Voilà, et ça va très vite. En fait, sacrée économie de semences. Alors, on va prendre la trilogie qui me sert pour mes trois compagnons. La houe.
Ça, c'est simplement une langue.
C'est une lame de métal. Tout le monde sait ce qu'est une houe. Sinon, vous regarderez sur le dictionnaire. Et nous, on appelle ça une tranche ici. Voilà, c'est. En plus, ça, c'est des vieux outils qui me plaisent au niveau des angles de travail. Donc, c'est pour ça que je garde que des vieux outils. Avec un manche long, parce que ça me permet de ne pas trop me baisser. J'ai des problèmes de dos assez prononcés. Ça,
un croc,
ce qu'on appelle ici un bigot. C'est comme une fourche qui aurait fondu au soleil et que les dents se sont recourbées.
Ouais, voilà, quatre dents.
Pareil, un manche assez long parce qu'on peut aller loin. Et puis le final, un râteau, tout bête. Et comme quoi, voilà. Et là, si
pas
je
pense... de binette, de sarcoire.
Si, mais j'en utilise peu.
Ah oui.
Parce que j'ai un autre petit bigot à dents plus courtes, plus étroit, qui me fait le travail de la binette et binette, je bine peu.
Alors pour le désherbage, qu'est-ce que vous utilisez?
J'ai deux binettes.
Une gauche, une droite.
Une gauche, une droite avec cinq doigts dessus. Voilà, ça c'est le principal. Et après, ces petits outils accrochés à dents, là, j'ai 3-4 tailles dedans. J'ai aussi des binettes, mais je n'utilise pas trop. Voilà, alors on va continuer.
Alors, Jean-Marie est avec nous. Salut, Jean-Marie.
Bonsoir.
Donc, bonsoir. Donc, on va continuer la visite qu'on avait commencée avec vous. Et puis, on prendra le temps d'en discuter par la suite.
Ce prêt-là, ça s'appelle le chapelas. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais pas. Lucha Pela, parce que c'est la tête un peu pelée, ou je sais pas. Et là, c'était cette partie-là où on est, ça fait comme deux petits plateaux, c'était des chènevières. Donc c'est là où les gens cultivaient le chanvre, donc a priori des bons terrains, pour faire la toile et les cordes, dans le temps, autrefois.
On dit souvent que les terres tout proches des villages, elles sont meilleures pour
C'est-à-dire qu'elles sont travaillées depuis très très longtemps. Mmh. Si on regarde les vieux cadastres napoléoniens, donc les cadastres qui sont entre 1820 et 1830, on voit encore le parcellaire très ancien. Je pense qu'à certains coins, on est encore sur du parcellaire gaulois ou gallo-romain, mais on a vraiment du parcellaire. C'est au bord des villages, de toute façon, c'est pas compliqué. Plus on s'éloigne, plus les parcelles sont grandes. C'était les communaux qui ont été partagés, maintenant qui sont souvent plantés. Et donc, les bords des villages, c'est souvent là ce qu'on avait, les ors. Quand vous avez une parcelle ou un nom d'endroit qui s'appelle les ors, l'or, c'est Hortus, c'est le jardin. Mmh. Voilà, c'est les jardins, c'était des... Alors, c'est pas forcément les potagers comme on fait nous maintenant, les jardins comme on peut les faire, mais c'était des parcelles un peu soignées où il y avait des apports de matière organique, du fumier, voilà. Et puis bien travaillé. Et là, j'ai quasiment pas de pierre dans cette parcelle. Ce qui m'a fait une surprise par rapport aux autres champs que je travaille. Il n'y a pas de cailloux, c'est formidable.
Et à cette époque-là, les gens faisaient pas beaucoup de légumes.
Bah, ils faisaient pas les mêmes légumes que nous, moi, je pense qu'il y avait moins de diversité. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Déjà, il n'y avait pas la patate. La pomme de terre n'était pas arrivée chez nous, donc je ne sais pas comment ils pouvaient survivre. Je pense qu'ils mangeaient beaucoup de bouillies de céréales et de choses vertes.
Sarrasin, seigle,
et puis accompagné de quelques herbes. Pareil, les salades qu'on a, c'est des variétés relativement récentes, souvent italiennes. L'oignon, il devait y en avoir. Alors, est-ce que c'était les mêmes variétés? J'en sais rien. Il y avait sûrement des choses du style ciboule. Mais après, personne n'a fait de descriptif d'un jardin d'un paysan du Limousin en 1800, malheureusement.
On est devant des rangs d'oignons.
Rangs d'oignons, alors
que vous achetez en bulbe à une centrale bio.
J'achète ça à une centrale bio. Il y a beaucoup de casse quand on ouvre les sacs, donc il faut trier. C'est la croix et la bannière. Donc ceux-là, ils ont été faits. Ils devraient être faits depuis longtemps, mais ils étaient trop mauvais pour les faire. Là, j'ai fait une association qui marche bien, c'est oignon-carotte. Une raie d'oignon, une raie de carotte. Mais là, les carottes ne sont pas encore sorties. Ça va pas tarder.
On avait cette association aussi là-haut, oignon et carotte côte à côte.
Voilà, j'ai fait
parce que ça s'associe bien, ouais.
Voilà, parce que la carotte, elle a une petite mouche qui vient pondre qui s'appelle la mouche de la carotte. Et l'oignon a sienne aussi. Et donc, les deux n'aiment pas... leurs odeurs respectives, donc ça peut a priori les éloigner. Mais ceci dit, il y en a toujours un peu.
Donc ici, on se bagarre contre les parasites, contre le gel, contre l'acidité du sol.
Contre la sécheresse.
Contre la sécheresse.
Contre
la pluie du printemps.
La pluie du printemps, les orages de grêle de temps en temps. Ça fait tout drôle, un orage de grêle. Hein, là, si j'en ai déjà eu une fois.
Alors qu'est-ce qui peut encore motiver à faire du maraîchage?
Je sais pas. Et puis, mine de rien, on n'est pas très nombreux, mais il n'y a pas forcément le public en face pour acheter.
Ah oui?
Si, il y a, mais faut que c'est pas forcément structuré. Donc, moi, je vais vendre mes légumes au marché de Gensoux, puis après le reste de l'année à la bascule, à Gensoux. Et après, j'ai d'autres clients, mais il ne faudrait pas qu'on soit 10 de plus, parce qu'il n'y a pas le potentiel public en face.
Ah, j'aurais pensé le contraire.
Non, tout le monde n'achète pas des légumes bio à la bascule. C'est quand même un public, on va dire, ciblé.
Oui, mais si vous en vendiez dans les épiceries ou d'autres marchés...
Un peu aux épiceries. Après, il faudrait que les supermarchés en prennent, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir le volume. Et les volumes, on les a pas forcément. Et puis c'est la fiabilité qui est dure à avoir aussi, parce que on se dit, moi j'ai une cantine qui me dit, tiens, pour tel jour il me faudra des radis, 15 jours de froid et les radis je les ai qu'après. Ça m'est arrivé une fois. Ou alors quand les radis sont prêts, la cantinière n'en a pas besoin, parce que son programme est fait à l'avance. Tout ça, je peux pas le... ça se programme pas. Ou alors on se dit, tiens, super, je vais avoir ça, on y va le lendemain, il y a eu la misère. J'ai aussi de la misère parce que j'ai pas mal de gibier ici. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit leurs traces, mais j'ai eu les sangliers qui sont passés deux fois. Si, là, tu vois, ça c'est les sangliers, vous voyez, ces trous-là. Ils sont passés deux ou trois fois. Mais eux, maintenant que c'est labouré, ça les intéresse pas trop. Donc là, il y a 2000 mètres carrés de terrain qui sont assez abrités, malgré les sapins qui poussent autour. C'était des jardins, ça aussi. Voilà, c'était une terre labourée autrefois. Mais bon, ça a été cultivé, enfin entretenu jusqu'aux années 30. Donc depuis, les arbres ont poussé. Quand on voit la taille des frênes, là. Il y a des frênes, donc c'est un terrain assez frais.
Vous y mettrez des légumes aussi ici, hein.
Des légumes ou alors un verger, je sais pas encore, un verger de fruitier. Je sais pas encore, ça va dépendre de ma force physique.
Ouais, c'est.
Et de mes finances.
C'est.
Pour faire des frichets, là.
Vous avez de l'aide pour travailler toute l'année, là ou
tout seul.
Tout seul.
Un peu ma femme qui m'aide un peu, mais des fois un peu de la famille, mais peu. Donc je suis souvent tout seul. Voilà, c'est ça qui est le plus dur. Enfin, j'ai soit d'autres copains, ils ont toujours. Ils se débrouillent pour avoir du monde tout le temps, moi. Moi, je suis pas doué.
Bah, il y a des. Il y a un verger qui fait myrtille contre. Enfin, on peut venir. Il faut proposer aux gens de venir cueillir à moindre prix, par exemple, des choses comme ça. Ouais.
Ça se fait dans des myrtilles. J'aime pas bien ça parce que les myrtilles, c'est peut-être.
Ou gratos.
Ça... Ouais, gratos.
Ou,
c'est ça.
Non.
Non, le problème, c'est que moi, je suis pas très chaud pour la cueillette directe parce que. Faut vraiment cadrer les gens qui ramassent pas n'importe quoi.
Ouais.
Parce que souvent les gens c'est pas par c'est qu'ils savent pas, c'est tout. C'est par ignorance.
Non, parce que j'imagine qu'en plein été, au moment où il y a des récoltes à faire, là, ça doit partir un peu dans tous les sens. Il y a des choses qui se perdent aussi peut-être.
Pas trop, on essaie de gérer. Puis des fois, il y a des cultures, il y a les aléas, on peut avoir une montée de la chaleur. Donc les salades qui montent toutes d'un coup. Donc c'est pour ça qu'on prend des animaux, j'ai des lapins, j'ai des poules. L'an dernier j'avais des gorées, des cochons. Ah oui, petit détail, à cette fontaine, le 7 août, on y fait un spectacle de contes. Et tous les ans, ça fait 15 ans qu'on fait un spectacle de contes. Et c'est tout propre, on met des bancs et tout. Et là on aura un conteur béarnais. De la vallée d'Aspe.
De la vallée d'Aspe.
Voilà, qui fera des contes bilingues en occitan, gascon et en français. Et c'est un bon conteur. Voilà, et il habite 7 août, après-midi 15h. Participation libre. Alors aussi, j'ai des fruitiers. Donc là, c'est des pommiers que j'ai greffés au fil du fil du temps. Là, ça fait 15 ans qu'ils sont plantés, les plus vieux. Et là, donc là, c'en est un que j'ai greffé cette année. Donc, c'est pas satisfaisant. Ça a l'air d'être parti. C'est une greffe en couronne.
Donc là, il y a plusieurs greffons.
Plusieurs greffons, et ça a l'air d'être démarré. C'est une variété tardive. Et ici, je suis obligé surtout de mettre des variétés tardives. Ben, vous voyez, il y a des pommiers là, qui n'ont pas encore débourré. Ils commencent juste à faire, les bourgeons commencent juste à s'ouvrir. On pourrait croire qu'ils sont morts, ils vont fleurir dans 15 jours.
Ouais. Et ils arrivent à produire des pommes.
Ceux-là, oui, c'est de la Canada blanc de la Creuse. Ouais. C'est une grosse pomme que j'ai trouvée à la noix. Voilà.
Donc ici, il vaut mieux des tardifs. Qui vont fleurir après,
les gelées. Après on est sûr d'avoir nos fruits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire
C'est une variété de pommes de la Noaille.
Celle-là, pas celle-là. Hein. Ça, c'est une variété de Haute-Vienne, mais l'autre, c'est une variété que j'ai trouvée à la Noaille. Mais peut-être qu'elle est d'ailleurs, parce qu'ici, souvent, les pommiers qu'on a ici, il y en a plein qui ne sont pas forcément originaires de la Creuse. Par exemple, celle-là, c'est de la petite fille du Berry. C'est une variété, je pense, du Berry, hein, puisque c'est une petite pomme rouge zébrée d'un peu de jaune. Bonne petite pomme. C'était souvent les maçons, quand ils revenaient, qui ramenaient, comme ils marchaient à pied, ils ramenaient les greffons. Ils voyaient les pommiers, ils voyaient les pommes à l'automne, en redescendant, et ben, ils ramenaient des greffons. Alors là, j'en ai un autre aussi. C'est une variété qui me plaît bien, celle-là. J'étais surpris. C'est celui-là, là, ce pommier un peu petit là. Cette année, il n'a pas de fleurs puisqu'il a fleuri l'an dernier, il a fait des pommes l'an dernier. Alors cette pomme, localement, on l'appelle la baricou. Et puis quand j'ai eu des pommes dessus, j'ai dit tiens, je connais cette forme de pomme, en plus petit, je connais ce goût. C'est un ancêtre de la golden. C'est une golden. Mais sûrement très vieille, c'est sûrement peut-être des cultivars anciens. Et donc c'est quand même intéressant de l'avoir, parce que une golden conduite comme ça, le goût est intéressant. C'est pas du tout la golden des cantines d'école. Voilà.
Donc vous vous intéressez pas mal aux variétés anciennes
oui,
et locales.
Et locales.
Comment vous vous faites, vous allez voir des gens
Bah, déjà j'en avais, ou... moi j'en avais ici dans le jardin de mes grands-parents. Mmh. Après, en discutant avec les copains qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, on fait des échanges, récupère des trucs. Après, des gens en discutant, ah bah j'ai ça t'intéresse, et oui je prends. Là j'aurais récupéré ce chou branchu là. Il y en avait dans le jardin, mais une année je l'ai fortement, j'avais perdu le mien. Mon pied, c'est un pied, il s'est vivace, on le laisse dans un coin du jardin, ça fait des branches, on se sert pour mettre dans la soupe l'hiver. Et là, il s'était perdu, je l'ai retrouvé. Alors, par exemple, j'ai du chou de mania, j'ai du chou bacalan de Limoges. Les bacalans, je vais vous les montrer, on va remonter à l'étage. Alors moi, ici, j'ai connu, j'ai fait des foins avec mes grands-parents, avec des vaches. On travaillait avec les vaches.
Parce que là, on est dans un endroit qui était à vos grands-parents, c'est ça?
Oui, c'était la famille depuis très longtemps.
D'accord.
C'était la même famille qui avait ce pré, puis après, par division de frangins, c'est devenu deux parcelles. D'ailleurs, ça se voit, c'est coupé au milieu, à peu près. Ouais. Voilà. Et ça, c'était des... Moi, je l'ai connu qu'en près de Foch, il y avait beaucoup d'arbres. D'ailleurs, j'ai ressorti en labourant, on a ressorti des racines d'un pommier que j'avais connu gamin. Je pensais qu'il n'y avait plus rien du tout. Il y avait encore des racines en train de pourrir dans la terre. Voilà. Donc moi, j'ai fait les foins jusqu'en 75 ou 16 avec des vaches ici.
Avec des vaches?
Ouais. Alors, la pente, quand on remontait avec les charrettes...
Et ça ressemblait à quoi, une ferme de cette époque-là, la ferme de vos grands-parents?
Ils avaient une dizaine de vaches, quelques moutons. Eux, ils faisaient du veau de lait, puis ils vendaient un peu de lait. Alors, c'était tout petit, puis bon... Moi, j'ai connu, il y avait une petite partie mécanisée, il avait une moto faucheuse. Voilà la grande mécanisation.
Donc, on vient d'entendre la visite de l'exploitation de la Noaille, votre exploitation, Jean-Marie,
oui.
Mon maraîchage. Et c'est vrai qu'on... Donc, vous disiez, en début de reportage, vous disiez que vous travailliez auparavant à temps plein à l'Institut d'études occitanes à Limoges. Et il y a 5 ans, vous vous installez comme maraîcher, en continuant à travailler à temps partiel.
Exact.
Qu'est-ce qui a motivé ce choix?
Plein de choses, on va dire. D'abord un peu la littérature. Bon, moi, je suis du milieu agricole, mais après, j'ai fait autre chose. Mais ce qui m'a plu, c'est un livre qui s'appelle « Plaire aux vaches », qui n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais ça m'a emballé. Et puis après, de voir que des jeunes qui arrivaient, ils faisaient un peu de maraîchage, ils avaient des serres. Moi, je n'avais pas tout ça. Et plus d'autres contextes qui ont fait que j'ai eu envie à un moment, j'en avais un petit peu marre de faire le métier que je fais et qui est quand même pas mal administratif. J'avais envie de souffler. Ce qui fait que j'ai décidé de passer le cap et de m'installer. Mais bon, ça, c'est vrai que tout le monde n'a pas compris tout de suite ce que je faisais, parce que le maraîchage, il n'y en a pas ici, c'est un pays d'élevage. Et donc, faire le choix j'avais un métier, donc pas forcément identifié, parce que c'est pas clair dans la tête des gens ce que je peux faire. Je fais aussi bien des spectacles que de l'édition, que des enquêtes ethnologiques. Donc ça, c'est pas dans les habitudes des gens. Et puis faire ce choix de allez hop, on fait une coupure, de s'installer, puis avec des légumes, ça a été dur. Les gens n'ont pas toujours trop bien compris. Mais bon, voilà, maintenant c'est un peu à la mode, puisque tout le monde veut s'installer en maraîcher. Tant mieux, mais après il faut structurer un peu tout ça, parce qu'on n'a pas par exemple les fournisseurs pour des matériaux, les serres, le plastique, les bâches, tout ça, il n'y a rien ici. Il faut aller plus bas en Corrèze, il faut aller sur Pompadour ou ailleurs, et pareil pour les marchés, pour la diffusion, enfin pour la vente, c'est un peu compliqué, on doit tout faire. Il faut faire sa prospection, il faut faire sa vente, il faut faire la facturation, enfin, il faut tout assurer tout seul, il n'y a pas de réseau. Bon, il y a quelques idées qui émergent avec le PNR et la Comcom Grand Creuse du Sud, Mais je reste encore un peu dubitatif. Parce que, parce qu'on est tous isolés, il y a plein de projets, les gens sont isolés, et après, il n'y a pas 30 000 marchés, il n'y a pas des populations non plus, enfin, il n'y a pas un public forcément énorme, on n'est pas à Limoges, on n'est pas au bord d'une grosse ville, donc c'est pas facile.
Parce que c'est vrai qu'ici, on est à la campagne, donc les gens ont l'habitude de faire leur jardin, et ceux qui ne font pas leur jardin, ils achètent... en supermarché, c'est ça qui se passe.
Généralement en supermarché, oui. Mmh. Et puis donc les gens, ils espéraient qu'on ait poussé, à cause un petit peu de l'habitude, des habitudes de supermarché, d'avoir des légumes très tôt ou toute l'année, des légumes qui sont déconnectés de la saison, et ça pousse à consommer du plastique. Donc ben voilà, des serres, des petits tunnels, des voiles de protection, tout ça c'est du plastique, enfin c'est du pétrole, donc... mais on est obligé, sinon ben on arrive très tard déjà. Déjà, nos productions arrivent tard en saison, alors qu'à 50 km, ils ont 15 jours d'avance sur nous. Donc c'est vrai que c'est un peu la course, qu'on est toujours, c'est un peu tendu. Et puis là, on a une météo cette année un petit peu... Je parlais tout à l'heure de sécheresse, c'est pas vraiment la sécheresse en ce moment, c'est plutôt...
L'excès de pluie.
L'excès de pluie, mais dans 3 mois, peut-être, on n'aura pas d'eau. Et voilà, donc, c'est très compliqué. Hein, c'est un métier où on démarre tôt le matin, surtout quand, dès qu'il fait beau, il faut être au lever du jour, il faut être dehors. Et puis, souvent, le soir, moi, je vois mes voisins agriculteurs, ben, ils rentrent chez eux casser la croûte parce qu'ils ont soigné les vaches, les foins sont plus ou moins faits. Moi, je suis en train encore de préparer, de trier pour les marchés ou pour les commandes. Des soirs, je ferais bien autre chose.
C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le climat de la montagne Limousine n'est pas très favorable pour le maraîchage. Donc j'imagine que c'est aussi pour ça que peu de gens dans l'histoire de la montagne Limousine se sont installés.
Dans le secteur, on est presque les premiers. Il y en a d'autres un petit peu en périphérie, mais sur la partie montagne, il n'y en a pas. Il y a très peu. Après, ce qu'il faut qu'on travaille plus, nous, c'est les légumes d'hiver, les légumes de garde. Donc la pomme de terre, les carottes, le rutabaga ou des choux, des choses comme ça. Mais si j'ai pas de tomates l'été, moi, je vais pas attirer le chaland, on va dire. Je vais pas être sexy. Et il me faut de la tomate, il faut un peu de tout, de la salade, enfin, il faut de tout. Un peu de tout, un peu de rien.
Et ce que vous disiez également, je ne sais plus si c'est dans le reportage ou en aparté, c'est la question de comment on distribue ces légumes, comment on les vend, et que la question des kilomètres se pose, si vous allez distribuer des légumes à droite à gauche ou passer votre journée en voiture.
Mais moi j'essaie d'optimiser en fonction de mes déplacements pour d'autres boulots, mais des fois je me déplace, en gros quand j'ai fait mon déplacement, j'ai mangé mon bénéfice. Mais après, il faut trouver ses clients, il faut trouver les combines pour pouvoir livrer, parce que des fois, les magasins, quand on livre, n'ouvrent qu'à 9h, mais moi, je vais livrer à 6h ou 7h. Donc, où je stocke les légumes en attendant, s'il se met à faire soleil, comment je fais? N'importe qui peut se servir. Après, il faut aussi appeler les gens, parce que des moments, ça arrive tout d'un coup, et le marché qu'on va avoir une fois dans la semaine ou deux fois, ça ne va pas consommer tout ce qu'on a. Et parce qu'il y a des légumes, c'est les productions, ça arrive d'un coup. Je pense surtout des choses qui ne durent pas dans le temps, comme de la salade ou certaines variétés de choux, je pense aux choux chinois ou des brocolis, tout est prêt d'un coup. Donc ça, c'est un peu compliqué à gérer. Mais bon, on y arrive. Et puis sinon, les lapins font le reste.
Et si, par exemple, vous aviez une chambre froide pour stocker ces légumes et les garder un peu plus longtemps frais, est-ce que ça changerait quelque chose? C'est un gros investissement, hein, mais...
Tout est investissement. Moi, j'avais prévu de... Ça fait 2 ans que je rêve de me faire une légumerie. J'ai trouvé une chambre froide, mais il faut que j'aille la chercher. Après, si je la récupère ici, j'ai pas la place encore adaptée pour la mettre. Et j'aimerais aussi faire un petit peu de conserve. De la conserve pour... Certains types de conserves, entre autres des coulis ou des soupes, mais j'ai pas le temps, de toute façon, actuellement j'ai pas le temps, je vois pas trop le jour, on va dire.
Vous pensez qu'un jour
Un jour peut-être. Voilà. Puis, je suis tout seul, hein, donc moi j'ai des enfants qui sont étudiants, donc ils n'ont pas forcément, quand ils ont du temps libre, envie de m'aider. Ma femme, c'est pareil, elle travaille, donc je me sens un petit peu seul des fois. Donc si j'ai des coups de main, elle me file des coups de main pour désherber. C'est le désherbage, c'est horrible, surtout la carotte.
Donc on peut lancer un appel à volontaires pour venir désherber
à petite main.
Les carottes de la Nouaille. Bon, néanmoins, on a l'air quand même de produire des choses sur la Nouaille, et notamment des tomates.
Oui. Il y a des choses que j'ai fait que je ne fais plus. Par exemple, j'ai fait du fenouil une année, parce que je trouve que c'est un très beau légume, et c'est un très bon légume. Je ne l'ai pas vendu qu'à la Nouaille. J'en ai pas vendu la Nouaille, mais je crois que j'ai dû en vendre deux. Les gens ici ne sont pas habitués, même les gens qui ne sont pas originaires d'ici, les gens ne sont pas habitués à manger du fenouil. Donc j'en fais plus, mais je regrette parce que c'est un très très bon légume. Voilà.
Alors maintenant, je vous propose d'écouter le secret de Jean-Marie pour faire pousser des tomates sur la montagne Limousine.
Alors comment on fait pour avoir des tomates qui ont du goût sur la montagne Limousine?
Eh bien, faut choisir les variétés. Donc des variétés plutôt anciennes. Bien que je fasse aussi un peu de F1 pour avoir de la tomate à des moments où il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais bon, bientôt il y aura des tomates toute l'année ici avec des serres plus performantes que les miennes.
Ah, vous parlez du projet?
Ah non, je parle d'aucun projet.
Ah bon, d'accord.
Alors ça, c'est un chou qui est déjà prêt. C'est un chou, une variété ancienne.
Donc un chou pomme qui est pointu?
Ouais, c'est un petit cabu. C'est un petit chou cabu. C'est le chou Bacalan de Limoges, variété Limousine. Voilà, donc un petit horticulteur, producteur de plants à Limoges, au Vento, à côté du CHU. Et à l'automne, ils ont ces petits choux. Voilà, moi j'ai fait ma semence, hein, je suis allé le reprendre plusieurs fois, mais eux, ils ont le mérite d'avoir conservé deux variétés de Limoges. Donc ce chou Bacalan de Limoges et l'oignon de Limoges, qui est un oignon paille assez plat, un bel oignon.
Alors je croyais qu'il était interdit de faire ses propres semences.
Mais si, moi on peut les faire, ces semences. Hein. On peut faire ces semences. Moi je l'ai fait, hein, de toute façon. Ça passe sur les ondes, si j'ai un souci, on viendra me voir. Non, moi je fais mes semences, parce que ça coûte très cher. Je revends pas de plants, donc je revends les légumes, je pense qu'on doit avoir le droit. Et puis je me suis jamais vraiment posé la question, j'ai toujours fait mes semences, je continuerai à faire mes semences, quoi qu'il advienne. Je fais un marché, et les marchés, mine de rien, ça c'est quand je m'étais installé, j'avais pas pensé que ça me prendrait autant de temps, la récolte et la préparation des marchés. Là ça me prend quasiment 6-7 heures.
Donc, pour un seul marché?
Ouais.
C'est-à-dire,
j'en suis où? Donc il faut ramasser. Après, donc quand je ramasse les haricots par exemple, je les aligne, je les mets pas en vrac, parce que après pour les reprendre, pour les revendre, c'est pas facile. Les carottes par exemple, je les mets en bottes, donc il faut que je pèse à peu près mes bottes, je les lave, je lave quasiment tous mes légumes. Les salades par exemple, je les ramasse au dernier moment, parce que ça supporte pas surtout l'été, je lave par exemple les courgettes, au niveau de la fleur, ben, je les lave, s'il y a souvent un peu de terre, je lave tout, quoi. Et on voit la différence. Moi, les pommes de terre nouvelles, par exemple, je les lave. Les gens, quand ils ont la patate, elle est propre, elle est toute belle. Et c'est plus attrayant pour le client, vous comprenez.
Il y a aussi des maraîchers qui les vendent sans les laver.
Oui.
C'est moins attrayant, c'est ça?
Ah oui, mais j'ai fait le test, j'ai comparé une fois avec une copine, elle n'avait pas lavé ses patates, j'avais lavé les miennes. Les gens ont pris les miennes en premier. Alors, on a vraiment testé, ça c'était flagrant. Donc, puis moi j'aime bien, c'est aussi, ça me permet de contrôler que j'ai pas de légumes abîmés. Parce que quand on laisse la terre, on voit pas comment c'est dessous. C'est aussi un gage de qualité par rapport à celui qui achète. Donc comme on va les vendre un certain prix, c'est aussi une façon de dire, ben voilà ce que je fais, vous pouvez contrôler, c'est nickel.
Comment vous fixez vos prix?
À la gueule du client. Non. Je fixe mes prix. Bon, par exemple, là, je sais que je vais peut-être augmenter certains produits. Enfin, si je trouve que mes produits sont moins beaux que ce que j'espérais, je les paye un peu moins cher. Si je les trouve mieux que ce que j'ai vu ailleurs, puis j'appelle des collègues, comme tu vends tel truc, voilà. Non, puis je regarde des fois aussi un peu les cours du marché, mais comme ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est des prix de gros. Sur d'autres régions de production, pas forcément en bio, c'est pas facile de mettre des prix. Mais bon, après, je vois un peu ce que font les collègues. J'essaie de m'adapter. Puis si je trouve que mes trucs à un moment sont moins beaux, je baisse un peu les prix. Puis en fonction de la saison, début de saison, par exemple, la pomme de terre nouvelle, c'est assez cher. Donc c'est intéressant d'en faire. Puis après, quand on arrive en pleine saison, on baisse les prix. Ce qui est normal.
Mais c'est.
Voilà.
C'est assez cher parce que les gens.
Parce que c'est les premières. Ils ont envie de manger les pommes de terre fraîches. Et puis c'est le début de saison. Donc. Moi, je vais les vendre, elles ne sont pas à maturité. Donc en poids, ça, il faut plus de pieds de patates pour avoir un volume que j'aurai avec un seul pied. Donc, puis il y a des choses qui sont les tomates en début de saison. C'est pas les meilleures, mais c'est là où on les vend les plus chers. Mmh. Et moi, je trouve que des fois, les premières sont pas top. Surtout ici. Et ici, nos tomates, même si elles sont assez bonnes, parce que c'est une question de variété, je les trouve un peu moins sucrées que plus au sud. Mais ça, c'est lié à l'ensoleillement.
Ici, pour avoir des tomates, il faut compter fin août.
Non. Là, cette année, j'espère en avoir mi-juillet. J'ai fait des variétés précoces, mais après, je les ai plantées, mis en place plus tard, il y en a qui ne sont pas encore en place. Là, je suis vraiment en retard, je suis à la bourre, et je fais les zèbres avec Radio Vassivière qui me retarde.
Merci. Hein.
Merci à Radio Vassivière. Non, j'ai bien voulu vous accueillir, c'est ma faute. Mais après, la pleine saison, c'est le mois d'août ici, hein. Août, c'est septembre. Septembre, là, c'est on a encore, mais fin août, c'est plein pot, là. Et ça, c'est là qu'on a de la bonne tomate et qu'il y a moins de monde pour les. Il y a moins de touristes, c'est moins de Parisiens, comme on dit, même si c'est pas des Parisiens. Il y a moins de. Mais c'est vrai, là, c'est là qu'on a les meilleures tomates. Ah, et puis il y a des variétés plus tardives. Moi, que je fais pas, les variétés qui sont mûres au mois d'octobre, je les fais pas, celles-là. Je n'arrive pas forcément à les avoir.
Alors, c'est là que vous faites des conserves. Est-ce que vous faites des conserves?
Ah, moi, je fais mes conserves, oui. Je fais.
Vos conserves, mais pas pour vendre?
Pas pour vendre, non, parce que, mais pour moi, oui, moi j'ai du stock, c'est bon, il y a ce qu'il faut, en coulis, je dois faire 30 litres par année, au minimum. Non, je prends les tomates un peu abîmées, celles qui ont du cul noir. Le cul noir, c'est ces tomates qui ont le cul noir, là, quand elles poussent, un seul coup, hop, elles deviennent toutes noires dessous. Ça, c'est un problème d'assimilation du calcaire, du calcium par la tomate, donc voilà. Mais ça, ça se régule en mettant du calcaire ou du calcium liquide. Avec du lait, par exemple.
Non, je parlais des conserves parce que vous disiez fin août, on a beaucoup de tomates, il y a moins de touristes. Donc,
tomates, pour moi, c'est pas un souci actuellement. Les gens sont hyper demandeurs de tomates. Les gens ont envie de manger de la tomate, ils ont envie d'en manger toute l'année. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu frustrant ici de ne pas les avoir au mois de juillet, début juillet. On s'est dit, ah là. Donc, on accepte de prendre celle des copains du bas, mais. Ouais, moi c'est je pourrais, enfin logiquement on n'est pas un pays pour faire de la tomate. On en fait parce que les gens sont habitués à en avoir toute l'année sur leur nez dans les étals de supermarché ou sur les marchés parce qu'ils viennent d'ailleurs et ils veulent de la tomate. Et c'est sûr que quand même nos tomates, si elles sont moins sucrées que dans le sud, elles sont quand même relativement bonnes. Je les trouve bonnes. Et puis il y a aussi des années, il y a comme des crues. Les tomates, la même variété, d'une année à l'autre, sur l'autre, elle n'a pas tout à fait le même goût. Elles ne sont pas forcément toujours aussi bonnes, ou des fois, sont des années où elles sont super bonnes, d'autres, elles sont moins bonnes. Puis il y a des variétés que je réussis pas. Je trouve, moi, par exemple, la cornue des Andes, qui est une tomate très longue, qui est une bonne tomate, ici, je la trouve pas bonne. Enfin, moi, celle que je produis, je la trouve pas bonne, donc j'en fais plus. En plus, elle est fragile, ça ne motive pas à en faire. Voilà.
Vous êtes toujours dans Histoire de Terre sur Radio Vassivière, 88.6, 92.3, le mercredi à 19h en alternance avec Impact, et le samedi à 11h en alternance avec la même émission. On fait une nouvelle émission par mois, on en est à la 20e, et cette fois-ci, on est allé à Lannouaille, chez Jean-Marie Connet, et cette fois-ci, on est non seulement allé chez lui, mais en plus, il est venu à Radio Vassivière, il est toujours là. il a envie de rajouter des choses par rapport à ce qu'on s'est dit au moment du reportage.
Oh, j'ai bien des choses à dire, oui, mais c'est vrai que le reportage, c'est pas facile parce que on voit pas les... c'est dur de montrer les choses à la radio. Mais bon, on va essayer d'expliquer un peu plus. Donc moi j'étais parti tout à l'heure, on parlait un petit peu de commercialisation, parce que c'est important, c'est bien de produire, mais après si on regarde pourrir ses légumes, ça fait mal au cœur, alors qu'on pourrait d'autres pour en profiter. Alors moi je vends aussi un petit peu à des cantines, ça fait 3 ans que je vends à des cantines, même un peu plus, 4 ans. Et les cantines de nos territoires, c'est quand même pas des cantines où il y a 80 personnes. C'est des toutes petites écoles. Alors des fois, je livre pour une douzaine d'enfants. Donc quand j'amène de la salade, c'est 2-3 salades. Donc quand c'est pas loin, ça va. Mais quand c'est plus loin, c'est un peu embêtant. Et il faut aussi habituer les cantinières à certains légumes qu'elles n'ont pas l'habitude de cuisiner. Je pense entre autres aux courges, les fameux potimarrons qu'il faudrait qu'on découpe à la hache, alors qu'on peut manger la peau. Mais ça y est, c'est passé dans les mœurs. Et voilà, puis après elles sont pas non plus habituées forcément, nos cantinières, c'est surtout des cantinières que j'ai, moi j'ai pas de cantinier. C'est la régularité des légumes, parce que donc je trie beaucoup, je pense souvent à elles, parce qu'en me disant oh là, si je mets des choses tordues, des pommes de terre qui sont biscornues, j'évite des pommes de terre où il y a le taupin, ça arrive des fois, je m'en excuse encore si elles les écoutent. Et voilà, c'est ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on produit.
Et que les cantinières doivent aussi prévoir leur menu à l'avance parce qu'ils doivent être vérifiés. Et que c'est compliqué pour vous, un mois à l'avance, de pouvoir dire tel jour j'aurai des radis.
Voilà, parce que c'est une année comme cette année où la météo est plus plaisante. Là, on a des creux. Moi, en ce moment, pas grand chose, donc si on me demande des radis, en ce moment j'en fais plus parce qu'il y a une autre petite bestiole dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'altise, et moi j'aime pas livrer
de la dentelle.
La dentelle, mais les feuilles, même si elles se mangent pas, c'est pas très beau. Et puis les radis, comme je les fais sous serre, dehors je prends pas le risque d'avoir des choses qui peuvent être piquantes. Voilà, donc parce que c'est les enfants qui vont manger, je préfère fournir des choses un peu plus douces. Alors ce que je fais aussi pas mal pour les. J'aime bien, moi, pour les gamins, c'est de leur faire des légumes un peu colorés. Ça leur change des tomates oranges, de la tomate rouge. Ben, j'ai des tomates vertes, des tomates oranges. J'essaie de faire des mélanges parce que c'est plus agréable à voir. Pareil, les carottes, j'ai des carottes qui ont la peau rouge, qui n'est pas orange. J'en ai qui sont blanches. Les premières fois que j'ai amené des carottes blanches, j'avais les yeux des cantinières. J'étais pas habitué. Pour les gens d'ici, la carotte blanche, c'est une carotte fourragère. Alors qu'il y a d'autres variétés qui sont plus sucrées que les carottes oranges, mais elles sont blanches.
Et c'est le panais, non? C'est pas la même chose, la carotte blanche et le panais?
Non, c'est deux espèces différentes. Donc, deux espèces différentes. Et donc, mes carottes, moi, il y en a qui sont blanches, il y en a qui sont violettes, il y en a qui sont un peu rouges, mais dedans, elles sont oranges en général. Donc il y a tout ça. Donc j'essaie de faire un peu de couleur, donc voilà, d'apporter un petit peu de lumière dans la cantine. Mais bon, ils font beaucoup d'efforts, hein. Ça c'est vraiment super.
Donc en quelque sorte, ce que vous proposez, c'est une révolution culturelle.
Non, moi j'ai rien inventé.
Je veux dire, pour changer les mentalités et les habitudes.
Oui, même les salades, je fais certaines salades qui ne ressemblent pas vraiment à des salades qu'on a l'habitude de manger, c'est pas des laitues. J'ai certaines salades feuilles de chêne qui ressemblent à des gros pissenlits, ou qui ont des feuilles en forme de châtaignier. Ça perturbe un peu les habitudes. Et puis, c'est pas forcément pratique. Alors, pareil aussi, il y a certaines courges qui sont énormes. Donc, on s'organise pour trouver les variétés faciles à éplucher aussi. Je pense beaucoup à autant de travail qu'elles font. C'est pour ça aussi que je lave les légumes. Quand j'arrive dans une cantine, si j'amène des carottes pas lavées... Là, je me fais tuer du regard.
J'ai envie d'ajouter qu'on a passé 2 heures sur votre terrain et qu'on n'entend pas forcément tout ce soir, aujourd'hui, mais qu'il y a des ruches qu'on ne va pas entendre, il y a des pommiers aussi, il y a des fruitiers. Enfin, oui. C'est un ensemble quand même aussi avec donc, la maison où vous avez grandi. C'est aussi tout un ensemble. Culturel au sens large qui vit, quoi.
Ah oui, non, mais c'était, moi, c'était un choix qu'on a fait de revenir ici. De revenir, d'abord, moi, quand on est revenu, j'avais encore mes grands-parents qui étaient en vie. C'était pour être à côté d'eux. Et puis bon, moi, je me suis élevé en partie à La Noaille. Hein. Je suis promené entre Perlevade et La Noaille. Mais La Noaille, il y avait les grands-parents, donc moi, c'était le pépé, la mémé. Et donc, c'était aussi un choix d'avoir un peu de tout, parce que des pommiers, j'en ai toujours planté ailleurs, greffé quand j'ai pu. Les abeilles, c'est plus récent, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai des abeilles, moi, ça fait même 15 ans. Mais moi, quand j'étais gamin, il y avait encore des ruchers en paille dans le village, chez mes parents. Et donc ça, je voulais en avoir, donc... Pareil, mais bon, si je m'écoutais, j'aurais un peu de tout, ça serait la ménagerie, mais...
Il y a aussi la basse-cour, hein.
J'ai la basse-cour, j'ai des chevaux. Si j'étais tout le temps là, mais bon, ça, c'est pas partagé, j'aimerais bien avoir une ou deux vaches. Mais voilà, mais ça serait une autre fois, dans une autre vie. Et puis pas forcément des limousines, j'aimerais bien avoir des ferrandaises, mais plutôt laitières.
Pour pouvoir faire un peu de fromage.
Un peu de fromage, pour faire du matto et du coupi. Voilà, des fromages qui se font plus, mais qui se faisaient ici. Donc, je lance un appel à tous ceux qui font encore du coupi ou du matto. Voilà, donc je suis toujours très intéressé pour avoir les recettes.
Moi, je connais pas à quoi ça ressemble comme fromage qui.
Ben, qui le matto, c'est fait avec le matto, c'est fait avec l'eau du beurre, le bas beurre. Cette eau qui reste après le beurre, et ben, on le fait rechauffer un peu, ça va recoaguler, et après on le filtre dans une toile. Donc ça fait quelque chose de rond, un fromage blanc extraordinaire. Et après, ben, on peut l'améliorer avec de l'ail et du poivre ou des fines herbes. Et puis si on le laisse fermenter, ça fait un fromage qui s'appelle le coupi, ou la tête de mort, et qui est en fin de compte un équivalent du gapron qu'on trouve en Limagne, dans les Limagnes d'Auvergne.
Mmh. Et est-ce que vous pensez que la grande distribution a fait du mal au maraîchage en donnant des mauvaises habitudes, c'est-à-dire pouvoir avoir des tomates en plein hiver, avoir des légumes qui sont très conformes à une norme.
Oui. Oui. Donc ça a habitué les gens à avoir de tout tout de suite. Et moi, j'ai des fois des gens qui m'appellent pour venir chercher des légumes, mais ils sont complètement déconnectés de la réalité. Quand je leur explique où je suis en altitude, et que les aubergines, je les aurai que dans 4 ou 5 mois plus tard, des fois, ils ne comprennent pas. Voilà, donc il faut avoir tout de suite. Maintenant, c'est le tout de suite. On n'est pas capable d'attendre. Et quoi qu'un bouteillon en colère, ça me mettrait un peu en colère, parce qu'il y a des saisons pour les choses. Hein, donc voilà. Et, bon, c'est vrai que c'est plaisant de manger des cerises, les premières cerises, là, donc j'espère bientôt. Moi, les miennes, elles sont encore vertes, elles sont peut-être prêtes pour la Saint-Jean, peut-être, c'est pas sûr. Mais voilà, il faut accepter d'avoir les choses dans la saison. Mais ça, c'est dur à faire comprendre. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, le plastique, moi, c'est un mal presque nécessaire actuellement, mais ça m'amuse pas forcément. Je regrette mon jardin avant les serres, il était plus joli. Maintenant, j'ai du plastique partout. C'est sûr que c'est des jours comme aujourd'hui, c'est agréable pour travailler au sec, mais... La tomate, par exemple, il me faut de l'eau toute l'année, enfin une partie de l'année, il faut arroser tout le temps, il faut s'en occuper beaucoup, alors que dans le jardin, ben, on arrose que quand il y en a vraiment besoin. Mais c'est comme pour tout. Tout le monde est pressé maintenant de tout. On doit tout avoir le lendemain, ou le jour même. Mais c'est vrai que ça a vraiment fait du mal, je pense. Et puis surtout, au niveau du goût, c'est quand je vois une tomate, ça m'arrive d'en manger, des tomates, quand je vais au restaurant, il y a des tomates toute l'année, et c'est franchement dégueulasse. La salade, c'est pareil, les salades qu'on peut avoir dans une assiette de salade, c'est... Bon, je vais rien dire, mais il faut venir en acheter la noix.
Pour avoir une salade qui a goût de salade.
Voilà, non, mais c'est même pas que chez moi, mais même dans d'autres endroits, partout. Mais bon... Les pommes de terre, quand on prend des pommes de terre, je ne sais pas comment elles sont en chambre froide, je ne sais pas. Ou les carottes de supermarché, elles sont gardées en chambre froide, parce que 3 jours après, elles sont toutes fissurées, toutes ridées, toutes moches, puis elles ne sont pas bonnes.
Alors qu'une carotte, ça se garde normalement.
Ça se garde, oui. Ça se garde, sauf que la carotte, elle ne sera pas droite. Parce qu'on n'a pas des terrains forcément non plus sans cailloux. Hein. Mmh. Moi, je vois certains, je regarde un peu des choses sur les cultures ailleurs, chez d'autres, ils n'ont pas de cailloux. Les terrains, c'est nickel. Mais comment ils font pour pas avoir de mauvaises herbes? Ça, c'est une question que je me pose aussi. Soit ils ont plein de petites mains, soit ils mettent un petit peu de ce qu'il faut pour sélectionner certaines plantes. Mmh. Voilà.
Vous travaillez en agriculture biologique. Hein.
Je suis certifié par EcoCert. Ça me coûte très cher, mais bon, c'est un choix que j'ai fait. En gros, on paye pour faire de la qualité. Voilà, si je faisais pas de qualité, si je voulais faire avec des désherbants et autres, je serais pas embêté. Mmh. Voilà, mais bon, ça c'est un choix que j'ai fait. Mais qui est contraignant quand même. Là, il y a des jours, je me dis, bon Dieu, tous ces altises ou toutes ces bestioles, comment je préfère pour les éliminer ou au moins les réduire, mais bon, ben, je les laisse, tant pis. C'est comme ça. Mmh. C'est comme quoi.
Il faut accepter qu'une partie de la production parte
pour
les nuisibles, entre guillemets.
Voilà, puis bon, après, bon, on recycle, on a des animaux, puis pour une pomme de terre qui a un topin, ben voilà, on prend un couteau, on fait un trou, on enlève le... ou c'est abîmé, ou on la fait cuire à l'eau, ça s'enlève tout seul. Mais bon, bah, c'est... Je me mets à la place de ceux qui vont le consommer, qui achètent, donc c'est aussi normal qu'ils aient un produit correct. Mm-hmm. Alors, des fois, ils en passent. Hein. Alors, des années où on n'a pas trop le choix, y a un peu plus de topin que d'habitude. Mais bon, après, les gens vont râler, et puis ils iront voir les collègues, qui n'en auront peut-être pas. Voilà.
Yann, est-ce que tu nous proposes d'écouter quelque chose ?
Dans la platine, on a Gaston Coutet. Tu peux nous le présenter ?
Alors, là, je fais la réclame pour ma crèmerie. Alors, c'est un disque qui a été coproduit par l'Oussamine et Chansomme et l'Institut d'études occitanes. C'est Gaston Coutet, chanté par Jean Domeliao, mais en occitan. Donc, les paroles traduites et les mélodies de Jean Domeliao.
Et on écoute le patois de chez nous.
Il faut quand même.
Elle est en français, celle-là. Elle est en français. Enfin, elle est dans les parlers de Coutet de la Bosse.
Et juste, il faut préciser que le générique d'Histoire de Terre, c'est une chanson de Gaston Coutet, mais chantée et mise en musique par Gérard Pierron. Donc là, une autre façon de rencontrer Gaston Coutet.
Oui, la question à 1000 points.
Dans mon pays, dès ma naissance, les premiers mots que j'entendis au travers de mon innocence semblaient venir du paradis. C'était ma mère toute heureuse qui me fredonnait à mi-voix, une simple et vieille berceuse en patois. Le joli patois de chez nous est très doux et mon oreille aime à l'entendre, mais mon cœur le trouve plus doux et plus tendre. Dans mon pays, autant des sèves à l'âge ou d'instant en instant, l'amour entrevu dans nos rêves se précise dans le printemps, cueillant les fleurs que l'avril sème un jour pour la première fois. Une fille m'a dit je t'aime en patois. Le joli patois de chez nous est très doux et mon oreille aime à l'entendre, mais mon cœur le trouve plus doux et plus tendre. De mon pays blond et tranquille, quand je suis parti déviré par le vent soufflant de la ville, mes vieux et mamie ont pleuré. Pourtant jusqu'au train en partance m'ont accompagné tous les trois et m'ont souhaité bonne chance en patois. Le joli patois de chez nous est très doux et mon oreille aime à l'entendre, mais mon cœur le trouve plus doux et plus tendre. Loin du pays, dans la tourmente hurlante et folle de Paris, où ma pauvre âme se lamente, un bonheur tantôt m'a surpris. Des paroles fraîches et gaies ont apaisé mes noirs et moi. J'ai croisé des gens qui causaient mon patois. Le joli patois de chez nous est très doux et mon oreille aime à l'entendre, mais mon cœur le trouve plus doux et plus tendre.
Nous arrivons à la fin de cette 20e histoire de terre. Et donc, nous étions en direct et en reportage chez vous, Jean-Marie, à La Noaille. Donc, on rappelle que vous faites du maraîchage, que vous... on peut venir chez vous.
On peut venir chez moi, vaut mieux appeler. Quand il y a la voiture devant la maison, c'est que je suis là, généralement ou pas loin. Et on peut me retrouver l'été sur le marché de Jansiou. Et sinon, vous venez à la maison, je suis juste en dessous de l'église. Il y a un gros tilleul devant la maison. Et vous demandez Crésus. Et donc, voilà. Et donc, après, ben, j'aime bien discuter aussi. On peut prendre le temps. Si je suis pressé, je vous ferai comprendre. Mais si j'ai un peu de temps, ça va. Je suis un peu banturle, on peut discuter. Voilà.
En tout cas, on vous encourage tous et toutes à venir à La Noaille. C'est un très bel endroit.
Et je vous invite tous pour le 23, 24, 25 septembre pour la deuxième édition de la fête de la montagne limousine, la fiette de la montagne. Et ben
qui aura lieu à La Noaille.
Qui aura lieu à La Noaille. On pourra prendre le temps de discuter. Il y aura peut-être des thèmes sur l'agriculture, justement. Ça sera l'occasion d'approfondir. Voilà.
Merci beaucoup.
Allez, Adi.
Donc c'est la fin d'Histoire de Terre. Vous pouvez... nous sommes rediffusés le samedi de 11h à midi, un samedi sur deux. Et vous pouvez écouter également toutes les autres émissions en allant sur le site radiovassivière.com.
Et la prochaine sera peut-être à la pisciculture de Bugeat, on espère.
La prochaine sera à la pisciculture de Bugeat.
Si vous-même vous êtes... dans le champ d'Histoire de Terre, agriculteurs, paysans, et que vous avez envie qu'on vienne, appelez-nous à la radio 05 55 64 71 11.